Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous, fidèles et nouveaux auditeurs de Mélomanie. Merci d'être encore à l'écoute de votre magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale. L'émission à ne pas manquer si l'on veut tout savoir, ou presque tout, de ce qui se passe sur la scène classique et lyrique de Toulouse et de notre région, bien que ce soit les vacances scolaires. Il y a toujours des concerts et des événements à commenter, à annoncer, ce à quoi nous allons nous employer tout au long de ce numéro. Pour m'assister dans cet exercice, les mélomaniacs qui ont accepté de s'y risquer avec moi, fidèle d'entre les fidèles de cette émission, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, de nouveau au rendez-vous de Mélomanie. Elle est accompagnée de Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31 et La Voix du Midi, et de Robert Pénavert, également cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31, Les Journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Et aujourd'hui, nous recevons aussi un invité d'honneur, Jean-Jacques Cuben, directeur artistique du Concours international d'interprétation de la mélodie française, dont c'est la 9e édition à Toulouse du 2 au 5 novembre. Bienvenue à vous quatre et merci d'être présents dans ce studio. Nous allons sans plus attendre revenir sur l'actualité de la semaine passée, comme il est de coutume lors de la première partie de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
Vendredi dernier, à la Lograin, était donné le 2e concert de la saison des grands interprètes. C'est un habitué de la salle toulousaine qui était à la baguette en la personne de Giovanni Antonini, souvent invité ces dernières années à diriger l'Orchestre National du Capitole. Là, le musicien et chef italien se produisait avec Il Giardino Armonico, l'orchestre qu'il a fondé en 1985. Ils ont interprété un programme où l'on trouvait les symphonies 47 et 49 de Joseph Haydn, ainsi que les 1er et 5e concertos pour violon de Mozart, pour lesquels la violoniste allemande Isabelle Faust s'est jointe à eux. Anne-Marie Chouchan, Serge Chauzy, vous étiez comme moi à la Lograin vendredi. Je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant que nous avons entendu ce soir-là un superbe concert et des musiciens de très haut niveau. On va commencer par parler de l'orchestre, cet orchestre Il Giardino Armonico. Comment l'avez-vous trouvé dans ces deux symphonies de Haydn? Pour ma part, je dois dire qu'il m'a semblé que c'était remarquable de bout en bout. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, je crois que là, on a eu une excellente leçon d'interprétation de la musique de cette fameuse première école de Vienne. Enfin, on parle souvent de la deuxième école de Vienne avec Schoenberg, Webern, mais la première école de Vienne, c'était Mozart, Haydn. Donc, c'était une bonne idée d'associer ces deux compositeurs qui se sont connus et appréciés énormément. Amusant. Et donc, nous écoutions l'ensemble Giardino Armonico. Un ensemble d'il y a quelques années, donc, comme vous l'avez précisé, qui a la particularité de jouer sur instruments dits d'époque, en tout cas historiquement informés. Et donc, il s'agissait de donner de ces symphonies de Haydn, deux symphonies de l'époque Sturm und Drang, la vision qui est celle de la musique de Haydn, une transparence absolue, une grande finesse, une interprétation extrêmement raffinée et détaillée, avec des nuances absolues, des couleurs formidables, les deux corps qui accompagnent cet orchestre était magnifique, des corps naturels évidemment. Et donc ça a été deux symphonies magnifiquement jouées. La 47e, c'est la symphonie Le Palindrome, avec ce petit jeu musical qui consiste dans le menuet de jouer un thème et puis de rejouer à l'envers. C'est très amusant. Et puis, non seulement il y avait beaucoup de nuances, mais il y avait de l'humour. Et Haydn, c'est le roi de l'humour à cette époque classique. Donc vraiment un grand plaisir pour ce qui concerne l'orchestre, l'ensemble.
Anne-Marie.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Serge. C'est vrai que moi, la musique baroque, parfois, j'ai pu reprocher à certains ensembles la volonté finalement de faire un peu de l'archéologie musicale, comme on l'a souvent dit, c'est-à-dire d'abord de jouer à l'ancienne. On ne sait pas trop comment d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas trop comment ça sonnait.
Comment c'était joué à l'époque, évidemment,
oui,
on n'a pas de documents.
Oui, d'autant plus qu'ils jouaient dans des lieux tout à fait différents, qui étaient des salons en général, des petites salles. Ce n'était pas du tout des salles de concert comme là, à Lograin. Mais là, je crois que Armonico réussissent à montrer que l'on peut jouer la musique sur instruments anciens avec une dynamique qui ne faiblit pas, avec une maîtrise technique et une précision aussi des
une
instruments,
homogénéité,
voilà, et que donc ces instruments peuvent sonner bien et qu'en plus, bon, il faut aussi avoir les mêmes exigences au niveau de la construction, de la rigueur qu'avec des instruments modernes, et que je pense que là, pour les deux symphonies de Haydn, c'était plutôt réussi parce que il y avait un côté côté clarté du discours, une transparence de l'orchestre, mais en même temps aussi beaucoup de chaleur, de dynamique qui donnait une interprétation de très haut niveau.
C'était très vivant, très vivant.
Voilà. Oui.
À tout moment, on était accroché par le discours et la cohérence de
Et ça se sentait dans la direction de Giovanni Antonioni, oui. Hein, qui, je l'ai dit tout à l'heure, a été plusieurs fois invité par l'Orchestre National du Capitole ces dernières années. Je sais que c'est un chef très apprécié des musiciens de l'orchestre. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ça fait partie de ces musiciens qui sont au service des œuvres et des compositeurs qui s'interprètent, et pas l'inverse.
Et qui savent diriger à la fois des orchestres sur instruments anciens,
oui, du baroque et du classique,
parce que
pour le coup.
Les baroqueux, comme on les a appelés, qui se cantonnent dans ce domaine, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Quand on est chef d'orchestre et musicien, on doit pouvoir jouer sur des instruments différents. Les exigences sont les mêmes.
Eh bien, c'était le cas de la soliste.
Alors, on va en parler d'Isabelle Faust. Je vais juste rester sur ces deux symphonies de Haydn, qui en a composé 104, tout de même. C'est le recordman dans la matière. Comment vous les situez dans l'ensemble de son œuvre? Évidemment, je pense que personne ne les connaît toutes, mais vous pensez que ça fait partie de ces grandes symphonies, la 47e et la 49e?
Ah oui, absolument. Oui. C'est vraiment la période médiane de la production de Haydn, pendant la période Sturm und Drang, c'est-à-dire la période Tempête et Passion. Alors, ce sont des œuvres extrêmement violentes quelquefois, mais avec de l'humour, avec de l'esprit. Non, ce sont des symphonies importantes, vraiment importantes.
Eh bien, bon, puisqu'on en parle, on va en écouter un extrait de cette 47e symphonie de Joseph Haydn, interprétée bien sûr par l'orchestre Il Giardino Armonico sous la direction de Giovanni Antonini. C'est le tout début, le premier mouvement. De la 47e symphonie de Joseph Haydn, interprétée par l'orchestre Il Giardino Armonico sous la direction de Giovanni Antonini, la première des œuvres qu'ils ont jouées lors de ce concert vendredi dernier à la Halle aux Grains. Et il y a eu aussi les deux concertos de Mozart joués avec Isabelle Faust, merveilleuse violoniste dont il faut que nous disions tout de même quelques mots, parce que ce n'est pas rien que de jouer les concertos pour violon de Mozart. Et là, je crois que nous avons vraiment eu affaire à une virtuose de l'archet. Vous serez d'accord avec moi?
Tout à fait. Tout à fait, une virtuose, mieux qu'une virtuose. Hein. Techniquement, évidemment, c'est parfait. Mais alors, c'est tout à fait l'exemple de ce dont parlait Anne-Marie Chouchant tout à l'heure. C'est une musicienne complète qui interprète aussi bien la musique baroque que la musique romantique et la musique contemporaine, avec des styles différents. Elle ne joue pas heureusement, la musique baroque, avec le même style qu'elle joue les concertos de Brahms ou de Beethoven, elle adapte son jeu à la musique qu'elle joue. Elle a un violon magnifique, un Stradivarius, qui d'ailleurs s'appelle La Belle au bois dormant. C'est un nom magnifique pour un violon. Mais c'est d'une beauté absolue, quoi. Elle a un phrasé, un timbre, une
pureté de son, vraiment.
Pureté absolue.
À la fois la puissance, les nuances.
C'est vraiment une grande interprète et Mozart lui va parfaitement. D'ailleurs, elle vient d'enregistrer l'intégrale de ses 5 concertos avec cet ensemble et ce chef. Et cette intégrale a obtenu un Grammy Award international. Il y a des raisons à ça, donc c'est tout à fait justifié.
Anne-Marie Chouchon, Isabelle Faust, vos impressions?
Ben oui, également, c'est-à-dire elle joue Mozart. Parfois, on le joue sur le plan violonistique avec beaucoup moins de qualité, disons, instrumentale. Là, il y a à la fois la qualité instrumentale, la beauté du son. Elle joue de ce Stradivarius avec à la fois, c'est vrai, une qualité de son, des nuances qu'elle tire de cet instrument merveilleux. En même temps aussi, beaucoup de chaleur dans l'expression. Et elle reste fidèle à un style qui serait celui de Mozart, en admettant qu'on puisse savoir le style de Mozart. Mais en fait, il y a du style. Elle ne cherche pas à le tirer vers une autre époque, plus romantique ou autre.
Je dirais qu'elle donne l'impression de comprendre ce qu'elle joue. Parce que parfois, les musiciens qui sont très très bons techniquement, ouais, l'impression qu'ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils jouent.
Et il y a une particularité ce soir-là. Alors c'est vrai pour les 5 concertos qu'elle a enregistrés. Les cadences qu'elle joue dans ces concertos ont été composées pour elle par le pianiste, pianofortiste Andreas Steyer, qui est un ami d'Isabelle Faust. Et donc, elle lui a demandé de composer ses cadences, et ce sont ces cadences qu'elle nous a offertes si gentiment le soir du concert.
Donc il y a 5 concertos pour violon de Mozart, ouais. Elle a joué le 1 et le 5, et il y a eu un rappel.
Un rappel, c'était le mouvement lent, l'andante cantabile du 4e concerto.
Eh bien justement, j'ai un petit extrait où on va entendre Isabelle Faust jouer un morceau de ce 4e concerto pour violon de Mozart. Un extrait du 4e concerto pour violon de Mozart interprété par Isabelle Faust. Et je signale en passant que la violoniste allemande a enregistré les 5 concertos de Mozart avec Il Giardino Armonico, un CD paru sous le label Harmonia Mundi. La semaine dernière également, jeudi pour être précis, les Sacboutiers, l'ensemble de cuivres anciens de Toulouse, étaient en concert à Saint-Pierre-des-Cuisines où ils ont donné leur programme Il Siglo de Oro, un programme très vocal pour une plongée dans la musique espagnole du 16e siècle. Autour d'eux, les chanteurs Adriana Fernandez et Pierre Binard, ainsi que les élèves des classes de chant du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Serge Chosy, vous ne manquez aucune prestation des Sacboutiers. Dans quelle forme les avez-vous trouvés jeudi dernier et quelles impressions vous a laissé ce concert?
Une excellente impression, mais je voudrais quand même préciser qu'il s'agit d'un concert particulier. C'est un concert qui est organisé dans le cadre du pôle des arts baroques qui dépend du département de musique ancienne du conservatoire. Et donc périodiquement, un week-end par mois, il y a des masterclass qui sont donc donnés à la fois par les Sacboutiers et d'autres musiciens spécialisés dans la musique ancienne, et ils essaient d'influencer les élèves du conservatoire qui ne sont pas forcément très bien documentés sur les musiques de cette époque. Et ensuite, ces week-ends de travail se terminent par un concert ouvert à tous, gratuit d'ailleurs, à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et là, il s'agissait donc d'associer les 2 classes de chant du conservatoire, la classe d'Anne Fondeville et la classe de Jacques Schwarz. Et il y avait d'un côté 5, de l'autre côté 4 élèves qui ont répété avec les Sacboutiers et qui ont chanté. Et donc, de nombreuses pièces, il y a une 30aine de pièces, courtes évidemment, de cette musique du siècle siècle d'or espagnol, avec des pièces des grands compositeurs de cette époque.
Oui, 16e siècle, donc à l'époque de Charles Quint, le siècle d'or. Est-ce qu'il y a quelques compositeurs que vous pouvez citer?
Parce que je... Il y a quelques anonymes, déjà, oui,
comme souvent.
De grandes familles de compositeurs bien connus. Et puis, il y a des compositeurs comme Juan de Nelchina, comme Pedro Guerrero, comme Juan Vázquez, grand compositeur, puis Matteo Fletch, dont les Sacboutis ont enregistré d'ailleurs un CD, puis Fernando de Oviedo, etc. Donc, de grands compositeurs de cette époque, alors avec des pièces vocales et des pièces instrumentales, mais la plupart étaient des pièces vocales, avec les deux ensembles de chanteurs, les deux ensembles des deux classes de chant, et puis les deux solistes, donc, qui sont, alors Adriana Fernandez, c'est cette soprano argentine qui est la compagne habituelle des Sacboutiers, qui a enregistré beaucoup de disques avec eux, et puis Pierre-Yves Binard, qui est aussi un baryton, alors lui qui est toulousain, et donc qui très souvent chante avec les Sacboutiers. Donc c'était vraiment un programme extrêmement vivant, très varié, très contrasté, très coloré. Il y a des couleurs extraordinaires. Musique espagnole.
Et puis très original, parce que c'est pas une musique qu'on entend très souvent.
Non, pas très souvent. Donc c'était un très beau concert avec donc les musiciens que l'on connaît, Jean-Pierre Cagnac au cornet à bouquin, Daniel Lassalle à la Sacboute. Et puis il y avait un invité de marque, Alfredo Bernardini, qui est un oboïste, en fait, qui joue de la chalémie, qui est l'ancêtre du hautbois. Puis Laurent Le Chenadec au basson, un guitariste extraordinaire qui s'appelle Miguel Rincon, qui jouait de la guitare baroque, donc Bihuela. Il a joué une pièce extraordinaire avec le percussionniste Florent Tisser. Simplement tous les deux, guitare et percussion, c'était tout à fait délicieux. Puis Yasuko Bouvard, évidemment, à l'orgue et au continuo de l'ensemble.
La fidèle Yasuko Bouvard, au continuo, toujours avec les Sacboutiers. Oui. Eh bien, on va terminer avec les Sacboutiers, cette première partie d'émission. Dans une minute, nous allons poursuivre nos échanges avec Jean-Jacques Cubaine pour évoquer la 9e édition du concours d'interprétation de la mélodie française. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
La seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31 et Les Voix du Midi, Robert Pénavert, également cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31, les journaux Côté Toulouse et Les Voix du Midi, et donc notre invité du jour, Jean-Jacques Cubaine, directeur artistique du concours international d'interprétation de la mélodie française.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de la semaine, c'est donc surtout la 9e édition du concours d'interprétation de la mélodie française qui se tient à Toulouse du 2 au 5 novembre. Jean-Jacques Cubaine, pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle que vous avez fait une longue et belle carrière de chanteur qui vous a amené à interpréter les grands rôles du répertoire de basse à l'opéra sur les scènes françaises mais aussi à l'étranger. Et parmi vos nombreuses activités actuelles, vous êtes donc directeur artistique du concours d'interprétation de la mélodie française. Mais derrière cet événement, il y a un organisateur, ou plutôt une organisatrice, puisqu'il s'agit d'une association, l'association Toulouse Mélodie Française. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter la raison d'être de cette association ?
Cette association a été fondée en 2001, conjointement par Émile Hurel et moi-même. C'est un monsieur qui n'est pas un musicien, mais qui est un passionné de musique et de poésie. Donc vous verrez le rapport avec la Mélodie Française. C'était un directeur de banque, ce monsieur. Mais donc, il s'est enquis au fond de personnes qui étaient susceptibles de l'aider pour fonder ce concours. Et donc, par l'intermédiaire de Véronique Grange, qui est une pianiste bien connue à Toulouse, professeure au conservatoire, professeure de la classe d'accompagnement d'ailleurs, Nous sommes entrés en contact et nous avons décidé au fond de fonder d'abord des journées de rencontres autour de la mélodie française qui ont commencé par un concours et puis qui ensuite ont alterné tous les deux ans en fait avec une académie internationale d'interprétation de la mélodie française. Et donc depuis 2001, nous cheminons calmement, avec une certaine sûreté. Voilà.
Donc tous les deux ans, le concours en alternance avec des journées de rencontres pour remettre un peu au goût du jour ce genre qui est quand même un petit monde en soi, le monde de la mélodie française. Et puisque vous parliez de la poésie, qu'est-ce que c'est la mélodie française ? Parce que beaucoup de gens connaissent le nom, mais est-ce qu'ils sont capables de donner une définition de ce qu'est la mélodie française, notamment si on la compare au Lied allemand, son cousin, excusez-moi du jeu de mots, germain. Alors, la mélodie française, votre définition ?
La mélodie française, d'abord, ça, c'est un genre donc, qui appartient à la musique dite savante. Donc, c'est tout simplement l'alliance du chant et d'un accompagnement, qui est celui du piano, en l'occurrence, sur des compositions, sur, en général, de grands poèmes, qui servent, au fond, de support littéraire aux compositeurs. Et c'est quelque chose qui, au fond, a intéressé la plupart des compositeurs français depuis Berlioz.
Effectivement, alors, l'origine, voilà. C'est Berlioz, Les Nuits d'été, 1841, pour être précis, sur des poèmes de Théophile Gautier. Si on dit que ce sont des poèmes mis en musique, c'est ça ou c'est un peu plus compliqué que ça ? Est-ce qu'on peut considérer que le texte et la musique sont vraiment à part égale ?
Exactement.
Que la musique n'est pas seulement là pour faire
briller
le texte ?
C'est là la différence, par exemple, avec la chanson. Où la chanson, bon, disons, le texte en général a une certaine importance, ou avait une certaine importance, et l'accompagnement n'était pas extrêmement recherché. Alors que dans le cadre de la mélodie française, c'est vraiment piano et voix, en l'occurrence, et chant, sont mis sur le même niveau. Et en général, comme ce sont de grands compositeurs qui se sont attaqués à ce genre, l'accompagnement est digne des plus grandes œuvres de ces compositeurs. Donc c'est quelque chose, en effet, c'est un genre assez, finalement, oui, évolué en qualité.
Et si on le compare au Lied allemand, est-ce qu'il y a une différence ?
À l'origine, il n'y a pas une grande différence sur le principe, c'est-à-dire que c'est toujours de la voix qui est accompagnée par du chant. Alors, il y a une partie du Lied, peut-être, qui est donc première période, Schubert, etc. On part quand même dans quelque chose qui est finalement assez voisin de la chanson, hein, puisqu'en Allemagne, on n'avait pas la même façon
conception,
de voir les choses. Voilà.
Oui.
Je dois dire aussi que la mélodie française est un peu l'héritière, quelque part, de la romance, hein, qui était un peu le genre qui a précédé, disons.
Médiéval, voilà. Renaissance, non, et troubadour. Enfin,
non plus, oui, ça c'est l'origine, mais surtout au début, disons, au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Donc le Lied, moi je n'y vois pas une grande différence, hein, parce qu'au fur et à mesure que s'est développé au fond le Lied, bon, on va aller vers des choses de plus en plus compliquées, hein, puisque parmi ceux de la fin du XIXe siècle, nous avons Wolf, par exemple. Déjà, c'est un travail très très complexe. Il y a évidemment les grands comme Brahms, donc moi, je ne vois pas vraiment une différence fondamentale.
Alors, on va parler aussi de la différence qu'il peut y avoir en termes d'interprétation, vocalement parlant, en termes de technique vocale, entre chanter de la mélodie française ou de l'opéra, par exemple. Avant cela, on a parlé tout à l'heure des origines de la mélodie, donc Les Nuits d'été d'Hector Berlioz sur des poèmes de Théophile Gautier. On va écouter un extrait de ces Nuits d'été, La Villanelle, Les Nuits d'été de Berlioz. Revenons rapportant les fraises des bois. La Villanelle, les nuits d'été d'Hector Berlioz, poème de Théophile Gautier, alors qui était l'interprète de cette version et la première qui a reconnu cet interprète, c'est Anne-Marie Chouchon. Allez-y, donnez son nom.
Je crois avoir reconnu Ludovic Tézier en parlant d'un baryton d'aujourd'hui qui est français, avec ce timbre. J'ai pensé que ça pouvait être Ludovic Tézier.
Et vous l'avez reconnu très rapidement, effectivement. Bravo. Je dois préciser que cet enregistrement a été fait au Théâtre du Capitole en 2002. C'était un récital qu'avait donné Ludovic Tézier, un récital de mélodie française. Et vous connaissez aussi celui qui l'accompagnait, parce que c'est celui qui accompagne les chanteurs au Théâtre du Capitole, qui prépare aussi les chanteurs pour l'opéra. Et là, Robert Pénavet a reconnu qui c'était. C'est pas le son du piano, mais il a deviné qui c'était.
Ouais, c'est le chef de chaîne du Théâtre du Capitole, c'est Robert Gonella.
Et bien voilà, effectivement. Donc, bravo à vous tous pour votre perspicacité. Alors, maintenant qu'on a parlé de ses origines, de la mélodie française, on va parler du concours d'interprétation de cette 9e édition qui est donc lieu à Toulouse du 2 au 5 novembre. Jean-Jacques Cubaine, comment ça se passe? D'abord, comment est faite la présélection? À quoi sont tenus ceux qui souhaitent participer à ce concours?
Eh bien, il y a d'abord la rédaction, évidemment, de règlements que l'on envoie à travers la France, bien sûr, mais aussi à l'Europe, et notamment dans les pays francophones, la Belgique, la Suisse, le Canada, alors là, c'est l'Amérique. Ça, c'est la première étape. Reçoivent cette plaquette que les professeurs, évidemment, qui ensuite vont orienter les chanteurs qu'ils connaissent et qui sont surtout des spécialistes ou qui savent très bien que ces chanteurs sont capables de chanter la mélodie française. Et ensuite, donc, ces chanteurs vont nous envoyer un dossier avec notamment un enregistrement audio ou vidéo maintenant, de manière à ce qu'on puisse juger un petit
faire
peu
une idée de leur
la
niveau.
Qualité, non, oui. Il y a une première sélection qui se fait donc par un comité artistique qui écoute et qui dit, bon ben là, oui, il a le niveau pour participer au concours. Donc voilà le processus. Et ensuite, évidemment, ils vont se retrouver, c'est jeudi 2, devant
le jury.
Un jury.
Qui est composé cette année?
Bon, l'idée quand même générale de ce jury, c'est toujours d'avoir une part égale entre des pianistes et des chanteurs, avec ensuite un compositeur, qui est le plus souvent d'ailleurs le président du jury. Alors, en l'occurrence, ce sera une présidente, puis ce sera Graciane Finzi. Comme chanteur, nous aurons, bien sûr, la noblesse oblige, entre guillemets, François Leroux, le spécialiste en mélodie, c'est un puits de science en la matière. Nous aurons Mireille Delunche, la soprano. Ça, ce seront donc les deux chanteurs. Côté pianiste, nous aurons David Selly, qui est professeur au CNSM de Lyon. Et ensuite, nous aurons alors une Toulousaine aussi, notre chère Éloise Urbain. Il y aura deux autres membres du jury, Alain Lacroix, que l'on connaît tous, qui aime la mélodie française, qui la programme, ce qui n'est pas si courant que ça. Et le dernier, le directeur du Conservatoire de Toulouse, qui nous accueille, Jean
de
Quint.
Voilà. Un jury éclairé, c'est le moins qu'on puisse dire. Je reviens aux candidats. Ils sont quand même tenus de proposer un programme, mais c'est un programme avec des figures imposées, un peu comme en patinage artistique.
Disons, ce qui est imposé, c'est le nombre de mélodies. Ensuite, comme il y a des prix différents, il y a un prix d'Odette Sévrac-Forêt, il y a un prix Poulenc, enfin, etc. Bien sûr que leur choix va s'orienter un peu en fonction des prix, puisque quelque part, bon, c'est leur intérêt d'essayer de concourir pour ces prix et de les gagner. Mais on ne leur impose pas un type de mélodie. Cette chose-là, on le fait plutôt dans l'académie. Donc, en fait, ils ont 10 mélodies de 6 auteurs
français. Au moins 6 auteurs,
français,
français différents.
Hein, pas francophones, hein, français.
Français,
hein,
vraiment.
En l'occurrence, voilà l'obligation qu'ils ont. Après, évidemment, leur choix, ben, là, ils sont libres de choisir ce dont ils pensent qui va les mettre en valeur du mieux possible.
Alors, quant au déroulement des épreuves, ça se passe en 3 temps, dans 2 lieux différents. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu?
Eh bien, nous sommes accueillis pour l'ensemble du concours, d'ailleurs, par le Conservatoire de Toulouse, ce qui est une chance vraiment très importante, parce que ça nous permet évidemment d'avoir des salles avec des pianos, ce qui permet aux candidats de répéter, ce qui n'est pas toujours le cas dans la plupart des concours. Hein. Là, ils ont au fond quasiment
très bonnes conditions
une demi-journée chaque fois pour travailler.
Et se préparer.
Voilà, et se préparer. Donc, le Conservatoire nous accueille. Ont lieu au Conservatoire les deux, enfin la première étape. Les éliminatoires. Et ensuite, nous passons à Saint-Pierre-des-Cuisines pour les demi-finales et finales, parce que ce sont des demi-finales et finales publiques.
Combien y a-t-il de candidats sur la ligne de départ cette année?
Alors, cette année, alors, il y a des duos et il y a des candidats qui viennent tout seuls, sans pianiste. Alors, il y a 26 duos et il y a 9 candidats qui viennent seuls.
Est-ce que ça vient vraiment de la planète entière, je vais dire? Ce qui montrerait que ce genre de...
Pas la planète entière, mais il en vient quand même de pas mal d'endroits. J'ai quelque chose qui va vous dire ça plus précisément, parce que ça a été recensé.
Les auditeurs comprennent bien que même si c'est de la mélodie française, que ça chante en français, ça n'empêche pas qu'il y ait évidemment des chanteurs étrangers qui viennent et que ce genre intéresse vraiment tout le monde.
Je dois dire que viennent souvent des chanteurs français. Bon, la majorité, ce sont des chanteurs français, bien sûr. Mais souvent, ils viennent, bien sûr, des deux conservatoires nationaux, Paris et Lyon, mais aussi d'écoles européennes. Beaucoup de Suisses, soit de Genève, soit de la Haute École de Musique de Genève, soit de Lausanne. Il en vient beaucoup également d'Angleterre, Guildhall School, Royal Academy. Enfin, ça, ce sont des chanteurs français, au fond, expatriés pour leurs études, mais qui reviennent en France pour le concours. Et après, là, en fait, ils sont 52, hein, donc vous voyez, alors, là, dans les 52, sans compter les pianistes. Hein, voilà.
Que les chanteurs.
En fait, 26, ça nous fait 52 candidats avec les pianistes. Après, il y a deux Libanais, un Chinois, deux Belges, deux Suisses, deux Allemands, un Canadien, un Ukrainien, deux Japonais et un Anglais.
Une Anglaise. Très international.
Ça, oui, ça l'est.
Pas qu'européen, loin de là.
Il y a presque tous les continents. Plus que ça, d'ailleurs. Ouais. Ça dépend de... Ouais.
Alors, on le disait tout à l'heure, il y a des prix spéciaux. Parce que le concours, ce n'est pas une seule épreuve. Il y a plusieurs répertoires. Et notamment, dans les prix spéciaux, il y a un prix Gabriel Fauré, Déoda de Sévrac, les deux compositeurs de notre région. Alors là, il n'y a évidemment que des mélodies de l'un ou de l'autre.
Alors, en fait, les candidats qui concourent pour ce prix doivent avoir à leur programme deux mélodies de Gabriel Fauré et deux mélodies de Déodat de Sévrac. Et donc, l'interprétation, bien sûr, se fait au meilleur des interprètes. C'est plutôt au niveau de la finale que ça se passe, évidemment. Mais il faut qu'il interprète les deux auteurs. Hein,
ceux qui participent à ces prix spéciaux participent aussi aux autres concours ou c'est vraiment complètement séparé?
Non. Bien sûr qu'ils participent. Les spéciaux, ce sont des suppléments, si vous voulez.
Des suppléments, vraiment, pour les mêmes candidats.
Le fond du concours se fait avec le Grand Prix Paul de Rennes, qui est un prix qui est attribué donc, par l'Association des Amis de l'École Normale de Musique de Paris, Alfred Cortot. Tout simplement, Paul de Rennes a été un grand mélodiste qui a fait un don à l'École Normale, un don financier important, à charge pour l'École Normale de promouvoir la mélodie française. Comme nous étions le seul concours qui s'occupe vraiment de mélodie française, bien l'École Normale est entrée en contact avec nous et nous avons conclu qu'un accord qui fait que le premier prix est quand même doté de 7 600 €. Et ensuite, donc, il y a, dans les prix généraux, il y a un premier prix et un prix duo. Pourquoi ce prix duo? Parce que quelque part, ce qui nous intéresse aussi de marquer, c'est que c'est un genre justement où piano et chant
sont associés
et sont à égalité. Donc quelque part, il est important de favoriser au fond l'émergence comme ça de duos de chanteurs. Et ensuite, ce sont donc des prix spéciaux, on va dire, parce qu'ils sont offerts pas par les institutions régionales ou locales, mais par des particuliers ou des entreprises. C'est le cas par exemple du prix piano. Alors, qui est offert par Amadeus Piano, que vous connaissez bien sûr,
oui,
puisqu'il est le sponsor
de cette émission, tout
voilà,
à fait.
Partenaire, qui est un prix important, hein, 2 000 €. Ensuite, donc, ce prix Gabriel Fauré Déodat de Sévrac, qui est offert conjointement par le festival Déodat de Sévrac, dont je m'occupe. Donc, quelque part, il y a la volonté de promouvoir l'œuvre de Sévrac, qui n'est pas suffisamment connue, notamment son œuvre mélodique, qui est très importante, et par Toulouse Mélodie Française. Et ensuite, un prix Francis Poulain, qui là, c'est un concert, en fait, qui est offert, un récital qui est offert par l'Académie internationale de la Mélodie Française de Tours, que dirige François Leroux.
Alors, parmi les grands compositeurs de la mélodie française, il y en a un qu'on a cité, la Gabriel Fauré, et je voudrais qu'on écoute une mélodie de Fauré. On ne peut pas se passer de ça. Moi, il y en a une que je mets peut-être au-dessus de toutes les autres, c'est Les Berceaux. On va écouter une version des Berceaux, interprétée par un des grands spécialistes de la mélodie française, le baryton Gérard Souzet. Écoutez ça, c'est une petite merveille.
Oh,
Les Berceaux, interprété par Gérard Souzet, poème de Sully Prudhomme, sur une musique de Gabriel Fauré. Alors, je crois que Robert Pénavert avait quelques questions à vous poser, Jean-Jacques Cuben. Je l'ai dit, vous avez une longue carrière à l'opéra. Aujourd'hui, vous êtes donc directeur artistique de ce concours d'interprétation de la mélodie française. Et évidemment, on se pose des questions sur les différences qu'il peut y avoir entre l'interprétation d'un air d'opéra et l'interprétation d'une mélodie. Robert.
Oui, alors effectivement, je profite de vous avoir en face pour vous reporter une question qui m'est souvent faite. Est-ce qu'il faut avoir une voix d'opéra pour chanter de la mélodie ? Alors, la question, je pense, qui est sous-tendue, en termes de projection de voix, effectivement, un chanteur de mélodie, en principe, n'a pas à passer la rampe de la fosse d'orchestre. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Alors c'est un vaste sujet. Hein. En France, nous aimons bien faire des catégories. On a un peu tendance en France à dire, voilà, ben, y a l'opéra, la mélodie, et aujourd'hui la musique baroque, hein, qui va être encore un autre domaine. Moi, je pense qu'on peut chanter tous les genres. Simplement, c'est une connaissance des styles qui est importante. Avec un travail sur le style, avec les personnes qui connaissent et sont spécialisées dans ce style. Mais, vous savez, il y a une maxime, c'est qui peut le plus, peut le moins. Et finalement, c'est sur quoi je me fonde pour dire ça ? Tout simplement, écoutez l'Allemagne, regardez l'Allemagne. Les plus grands chanteurs allemands chantent l'opéra, le Lied, qui finalement est aussi intimiste que la mélodie française, hein, et l'oratorio et le baroque. Donc quelque part, pourquoi vouloir absolument spécialiser les gens dans un genre ? Disons que l'on finit par réduire les possibilités. Je m'explique par rapport à la mélodie, c'est-à-dire c'est un genre intimiste, certes, mais enfin il faut quand même chanter, ce n'est pas parler, hein. Il faut toujours faire une petite différence là-dessus, parce qu'on a tendance parfois à confondre un peu parfois la parole, disons soutenue, avec le chant, hein, pour certains chanteurs. Hein. Et donc moi je pense très honnêtement qu'un grand chanteur d'opéra, nous en avons eu un exemple avec Ludovic Tézier, il chante les Berlioz, il peut chanter bien sûr, alors les Duparc n'en parlons pas, qui sont des choses assez dramatiques. Je pense qu'il peut tout aussi bien plier sa voix à Debussy, sans problème. C'est simplement, après, il faut avoir conscience du style et des exigences de chaque compositeur d'un point de vue stylistique. Mais moi, je dirais oui, on peut chanter la mélodie avec une voix d'opéra. Évidemment, en la modelant au genre.
Alors, une autre question, Jean-Jacques Cuben, quelles sont les qualités fondamentales d'un interprète ? Parce que moi, ce que j'attends d'un récitaliste de mélodie, c'est bien sûr la musicalité, mais également de comprendre tout ce qu'il dit. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une attention très particulière à la prosodie ?
Bien sûr. Alors ça, oui, là, c'est une chose, ça fait partie du style, justement, hein, de cette exigence stylistique. Cette prosodie, bien sûr qu'il faut à la fois travailler le poème, c'est-à-dire pouvoir dire le poème, quelque part, et ensuite voir comment le compositeur a mis en musique le poème, c'est-à-dire a utilisé la ponctuation du texte poétique.
Oui, la métrique.
Alors, la métrique du texte. En général, les bons compositeurs suivent les intentions du poète. Donc déjà, il y a une piste sur laquelle on peut s'appuyer pour l'interprétation du texte, et enfin, de l'ensemble texte-musique. Ensuite, la diction elle-même. On ne devrait pas perdre un mot de ce que chante un chanteur, que ce soit à l'opéra d'ailleurs, que ce soit à la mélodie. Alors, plus forte raison à la mélodie, puisque c'est un genre poétique où le poème est en général est de qualité et où on se trouve dans un lieu, en effet vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup plus intime, bien qu'on fasse de la mélodie dans des salles d'opéra. Et là, c'est pour ça qu'un chanteur d'opéra, à mon avis, il a sa place dans le genre mélodie, parce qu'un chanteur qui se contenterait de faire de la mélodie serait assez confidentiel dans une salle d'opéra. Mais par contre, la projection du mot, la mise en valeur du mot par rapport à tout simplement à l'articulation, à la ponctuation, etc., tout doit être travaillé. Je pense que c'est le travail, au fond, sur la mélodie est un travail beaucoup plus minutieux, entre guillemets, et beaucoup plus sophistiqué que le travail sur l'opéra ou la situation dramatique. La musique est beaucoup plus porteuse, entre guillemets, et où surtout une situation dramatique impose une certaine déclamation, un certain style de chant, beaucoup plus évident, on va dire.
Malgré tout, j'ai quand même l'impression que le public qui vient au récital de mélodie, que ce soit une mélodie française ou germanophile ou germanophone plutôt, est quand même assez restreint. Moi, je me souviens de récital de mélodie au Théâtre des Capitoles avec de très grands chanteurs et où il y avait des demi-salles quasiment. Hein. On se souvient tous, ou à peu près, du récital de Christa Dulwicz il y a pas mal d'années où il y avait un quart de salle. Voilà, Jonas Kaufmann qui est venu, bon, il était jeune, hein, pour un voyage d'hiver autant que je... Voilà, et c'était pas plein, loin de sa faute, mais il était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. Mathias Goerne également est venu à Toulouse, au Capitole, et c'était pas plein, loin s'en faut. Alors, que faut-il faire pour intéresser le public à ce genre merveilleux qui est le genre de la mélodie? Et combien d'interprètes nous le disent? Moi, les plus grands chanteurs d'opéra disent ma véritable confrontation avec le public, c'est au piano dans de la mélodie.
Tout à fait, parce qu'il y a un côté entre guillemets sans filet dans la mélodie. L'orchestre dans l'opéra, etc., il y a la mise en scène, il y a beaucoup de choses qui viennent au fond combler l'attention du spectateur. Chose qui n'est pas le cas dans la mélodie, où au fond, c'est un chanteur face, un pianiste face à une grande salle et face à un public. Donc cette chose-là déjà est différente. Donc ça, il faut être capable de le faire. C'est là où peut-être la sélection entre les grands chanteurs ou les grandes voix et les petites, enfin, etc. Mais c'est surtout au niveau de la capacité à transmettre quelque chose de relativement intime, notamment dans le sentiment la plupart du temps, hein. Donc ça c'est un premier point. Par rapport, rappelez-moi ce que j'ai perdu un peu le fil là.
Je disais que beaucoup de grands chanteurs d'opéra aujourd'hui, oui, disent que la forme finalement de communication artistique qu'ils préfèrent, la véritable, c'est la confrontation avec le public et eux seuls sur une scène avec un piano.
Alors là, il y a également l'aspect, si vous voulez, personnel, c'est-à-dire qu'il, oui, y a une certaine liberté que le chanteur a à ce moment-là, évidemment, dans le respect musical, enfin, du texte musical, mais qu'il a une liberté qu'il n'a pas à l'opéra, où il y a une prédominance du chef d'orchestre, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il a synchronisé l'ensemble des musiciens et plateaux, et du metteur en scène, qui, au fond, on le voit aujourd'hui, fait faire des choses parfois un peu surprenantes au chanteur. Donc déjà, ça, c'est un point sur lequel le chanteur, là, n'a aucune prise. Dans le cadre de l'opéra, il est simplement, il apporte sa voix, il apporte sa personne, mais on ne lui demande pas son avis, en général. Alors que là, par contre, dans le cadre de la mélodie, c'est lui qui est là.
C'est sa responsabilité
intégralement. Et donc, il peut dire ce qu'il a envie de dire, quitte après à être critiqué sur ce qu'il a dit. Mais il peut. Et également, un point qui est important aussi, c'est cette idée que, au fond, les mélodies, ce sont de tout petits tableaux. Donc, il faut être capable de créer une atmosphère en 3 minutes. Et des atmosphères différentes. Ça, c'est la difficulté. Tandis que, bon, l'opéra, il y a tout ce qui entoure, qui fait que le cadre est bien précis, l'atmosphère est créée. Donc ça demande une certaine habileté à ça, et un certain goût pour ça. Chanter la mélodie, vous savez, à l'opéra, on dit, quand on sait chanter Mozart, on peut chanter tout. Bien, c'est un peu pareil, c'est la même exigence à la mélodie que lorsqu'on chante Mozart, parce que tout s'entend.
Je reviens au concours en lui-même et à l'histoire du concours d'interprétation de la mélodie française, donc créé en 2001, c'est la 9e édition. Est-ce que depuis la création de cet événement, il y a d'anciens vainqueurs ou d'anciens participants qui ont fait carrière dans le monde de la mélodie, mais peut-être aussi à l'opéra?
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs une des fonds de nos fiertés. Et puis ça démontre quelque part aussi ce qu'on vient de dire avec Robert Pennavert, c'est que justement on peut chanter la mélodie et l'opéra. Parce que Gaëlle Arquez notamment, qui n'avait pas eu un grand prix d'ailleurs, hein, qui a eu le second prix simplement, elle fait une grande carrière à l'opéra. Norman Aoun, elle avait eu le premier prix d'ailleurs devant Arquez à ce moment-là. Peut-être parce qu'elle était un peu plus jeune qu'Arquez. Bon, enfin ça c'est des choses après le jury apprécie à sa façon. Fait une très bonne carrière également. On la voit à Paris, on la voit à Toulouse. Anaïs Constant
bon, oui.
Dernièrement, qui a eu simplement un deuxième prix, là aussi. Hein. Peut-être parce qu'elle, bon, est moins spécialisée dans la mélodie française que celle qui a remporté le prix, qui est vraiment une personne assez, assez exceptionnelle, qui est Clémentine de Couture, qui vraiment, elle, est une chanteuse de mélodie, qui sait faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire ses petits tableaux, etc. Mais il y a eu aussi Ekaterina Godovanets, par exemple, qui, elle, était une grande voix lyrique russe, qui fait une grande carrière en Allemagne, notamment à Nuremberg, où elle chante vraiment les grands rôles, hein, du répertoire, les Verdi, enfin, etc. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas forcément les petites voix qui ont le premier prix. Après, il y a aussi des gens qui sont repartis dans leur pays. Notamment, je me souviens d'un ténor coréen qui s'appelle Shin Mo Kang, qui était un interprète de forêt exceptionnel, une diction magnifique. Bon, il est reparti dans son pays parce qu'il enseigne chez, lui. Souvent, les Coréens, les Chinois repartent. Il y a également une Japonaise, Mochizuki, une personne qui est importante. Alors, les Toulousains aussi. Hein, vous avez Enguerrand de Salle de Is qui, maintenant, fait une excellente carrière. C'est un ténor plutôt léger, plutôt mozartien, mais qui fait une bonne carrière. Bon, vous avez Jean-Christophe Fillol qui est un baryton français, mais qui maintenant est en Allemagne, travaille en Allemagne, également de grande qualité. Eux sont moins connus, mais ils le seront, je pense. Hein, Julien Véronèse, basse ou baryton basse. Également une mezzo-soprane suisse, helvète, Karine Séché, qui également fait une très très bonne carrière. Je me souviens toujours de l'interprétation d'une mélodie sur des textes de Prévert, le titre c'est La pêche à la baleine, qui était vraiment un monument d'interprétation. Tout ça, c'est, je pense très honnêtement, que le concours de la mélodie française, plus il ira d'ailleurs, plus il intéressera des gens de haut niveau. Parce qu'au début, bon, les gens ne savent pas trop, donc il vient un peu de tous les niveaux. Mais petit à petit, on s'aperçoit en écoutant les candidats, les enregistrements, etc., que ce sont des gens qui ont déjà, soit ce sont des gens de carrière, et finalement, ont une expérience, et ont compris quelque part que s'ils veulent gagner un prix dans le concours de la mélodie française, il faut être au top, on ne peut pas arriver là avec les choses à peine effleurées, etc. Ça demande un métier déjà important.
Je pense qu'il y a une grande école de musicalité également, que parfois on ne rencontre pas auprès d'interprètes spécialisés dans l'opéra.
Tout à fait. C'est cette espèce de subtilité liée évidemment à une présence vocale réelle. Mais il y a une forme de subtilité dans la mélodie française. Alors,
comme vous évoquiez les passerelles entre la mélodie française et l'opéra, il y a une artiste qui va très bien illustrer ça, et justement, vous avez donné son nom tout à l'heure, c'est Gaël Arquez qui vient de sortir un CD chez Harmonia Mundi.
Non,
c'est pas Harmonia Mundi.
Rendons à César ce qui lui appartient. Juste deux mots sur Gaël Arquez. Nous l'avons découvert au Capitole en 2012 dans le rôle-titre de La Belle Hélène, où elle avait toutes les qualités pour être une très belle Hélène. Voilà, et je me souviens parfaitement. En 2014, elle a participé à la création mondiale des Pigeons d'argile de Philippe Hurel.
Donc le fils
des Hurel. Le fils, voilà, absolument. Et en 2015, souvenez-vous, elle chantait Phébé dans la reprise moderne, on va dire, de Castor et Pollux. Voilà. Et donc, cette jeune cantatrice, qui se révèle être en définitive une soprano falcone, quelque chose d'assez rare. La voix a beaucoup évolué depuis La Belle Hélène, c'est-à-dire en 5 ans, je ne connais pas son professeur, mais elle vient d'enregistrer son premier récital, et tenez-vous bien, dans un des labels les plus prestigieux, si ce n'est le plus prestigieux du monde, voilà exactement Eric, du monde classique, l'étiquette jaune de Deutsche Grammophon. Ce récital s'appelle Ardente Flamme, c'est avec l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine dirigé par Paul Daniel. C'est un récital exclusivement de grands airs de l'opéra français, avec quelques raretés, mais également des choses très connues comme Sappho, Werther, etc. Et je pense qu'Eric va nous en faire écouter
un extrait. Oui, alors on va écouter un morceau très connu, puisqu'il s'agit de Près des remparts de Séville, extrait de Carmen de Georges Bizet, interprétation de Gaël Arquez. Près des remparts de Séville,
près des remparts de Séville, extrait de Carmen, interprété par Gaëlle Arquez. Gaëlle Arquez, donc ancienne participante et second prix du concours d'interprétation de la Mélodie française.
Peu importe, l'essentiel,
c'est elle est lauréate.
C'était pour le rappeler. Donc voilà, un disque d'air d'opéra qu'elle vient d'enregistrer, paru sous le label prestigieux Deutsche Grammophon. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les quatre, Anne-Marie Chouchan, Serge Chauzy, Robert Pénavert et Jean-Jacques Cubaine. Qui veut ajouter quelque chose?
Simplement rappeler les...
Je vais le faire. Je vais le faire, bien sûr. Donc merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission et d'y avoir apporté votre enthousiasme et la passion qu'on vous connaît. Je rappelle que le 9e concours d'interprétation de la Mélodie française a lieu du 2 au 5 novembre à Toulouse, au Conservatoire à rayonnement régional pour les éliminatoires et à Saint-Pierre-des-Cuisines pour les demi-finales et la finale.
Public,
prévu le dimanche 5 novembre pour la finale, donc à 17h puis à 20h. Il y a un site internet pour vous renseigner sur le déroulement du concours, www.concours-chant-mélodie-française.com. Je signale également les concerts que donne le Toulouse Wind Orchestra sous la direction de Dylan Corlet. C'est vendredi 27 et samedi 28 octobre à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Là aussi, il y a un site internet pour voir plus de détails, www.toulousewindorchestra.com. Et puis, je signale également, notez-le sur vos agendas, le concert Lo Camin del Cante, le chemin du chant, donné le mardi 7 novembre à 20h30, également à Saint-Pierre-des-Cuisines, dans le cadre du festival Déodat Sévrac, dont Jean-Jacques Cubaine est le directeur artistique. Voici le site du festival, www.festival-deodat-2-sévrac.fr. La régie technique de cette émission était assurée par Jean Loirzac. Vous pouvez bien sûr écouter ce numéro en podcast dès aujourd'hui en le téléchargeant sur le site de Radio Présence. Pour mémoire, je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.